Tassi.
I am the least racist person that you have ever met. I am the least racist person.
C'était Donald Trump sur les ondes de CNN en 2015 qui déclarait qu'il était la personne la moins raciste
au monde
que vous puissiez rencontrer. Alors cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Loïc Tassé. Bonjour Loïc.
Bonjour Bernard.
Alors évidemment, c'est une déclaration qu'on vous fait entendre parce que il a déclaré hier dans une rencontre, et puis là, il y a suffisamment de sources qui le rapportent pour qu'on puisse en attester la véracité. Il a parlé d'Haïti, de certains pays africains comme des pays de merde, shitholes.
Oui, c'est pire que ça. C'est des trous de cul, littéralement. C'est ce qu'il vient de dire. C'est extrêmement vulgaire. C'est très, très offensant. Tu sais, on peut comprendre que certains gouvernements sont peut-être des gouvernements de merde, mais un pays, jamais. Tu sais. Alors, évidemment, tout le monde s'offusque de ça. Tu as Dick Durham, qui était là, qui est le whip, qui a dit « Oui, oui, c'est bien ce qu'il a dit ». Paul Ryan qui a dit « Mais oui, ce sont des propos qui sont injurieux. » Tout le monde reconnaît que ce sont des propos injurieux. Et le pire, c'est que ce matin, dans un tweet, il a nié. Il a dit que non, c'était pas ce qu'il avait dit. Il y avait eu des mots très durs, mais c'était pas ça exactement, etc. Mais bon, écoute. Il y a personne qui pense que c'est un homme particulièrement raffiné. Il y a personne qui pense non plus que Trump dit la vérité. Donc, c'est encore une pierre de plus, si tu veux, là-dedans, dans cette balance où Trump ment. Mais il y a une autre nouvelle qui vient de tomber et qui est très importante. Figure-toi que, tu sais, l'entente sur l'Iran, entre les États-Unis, l'Iran et puis d'autres pays, la Russie, la France, etc. Alors, on devait décider. Oui, sur le nucléaire. Alors, d'après toi, est-ce que Trump décide d'annuler cette entente ou est-ce qu'il décide de la reconduire?
Ben j'espère qu'il l'a reconduit.
Il l'a reconduit.
Il l'a reconduit?
Oui, ça vient de tomber. Il avait dit, il laissait entendre qu'il ne le ferait pas. Il avait dit, souviens-toi, que l'Iran violait l'accord. Eh ben non, il a décidé finalement de le reconduire. Et on en avait parlé hier, souviens-toi qu'on avait dit que les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, qui rencontraient le ministre des Affaires étrangères de l'Iran à Bruxelles, disaient que l'Iran avait respecté toutes les clauses de l'entente et que si Trump voulait annuler cette entente, ben, fallait qu'il amène quelque chose en échange.
Mais il ne la reconduit pas de façon permanente. Là. Il se donne un sursis. Hein. Il ne fait que donner un sursis à l'entente.
C'est ainsi qu'elle est faite. Il doit l'approuver, si j'ai bonne mémoire, tous les 3 mois ou quelque chose comme ça.
Ce serait un président démocrate ou une présidente démocrate? Ce serait la même mécanique?
Ce serait le même mécanisme, mais disons qu'il jouerait moins avec les nerfs des dirigeants internationaux.
D'accord.
Il dirait pas je vais peut-être le renouveler, peut-être que je le renouvellerai pas.
Okay, je comprends.
S'il n'y avait pas de problème, il renouvellerait et ce serait tout simplement quelque chose qui serait presque automatique.
Bon. Parlons de, parce que c'est gros. C'est quand même la puissance européenne. Il semble bien qu'Angela Merkel va rester chancelière de l'Allemagne pendant encore un certain nombre d'années. Elle a réussi à sauver sa peau grâce à cette entente qui n'est pas encore ratifiée, mais...
Hein? Elle a presque réussi à sauver sa peau, on ne le sait pas encore. Et en fait, le problème, on en avait parlé lundi, c'était qu'elle était en train en pourparler avec les sociaux-démocrates qui l'avaient appuyée 8 années sur 12 pendant son pouvoir, qui ne voulaient plus l'appuyer parce que leur base n'aimait pas du tout les politiques de Merkel, notamment en immigration. Donc, on disait que oui, depuis lundi, c'était le huis clos. Ils étaient en réunion, ils négociaient et ils devaient nous donner les résultats. En fait, jeudi, finalement, on les a eus aujourd'hui. Et c'est oui, ça marche, en effet, il y a un accord sur les grandes lignes entre Merkel et les sociaux-démocrates, sauf que, et c'est là que je t'arrêtais, sauf qu'il faut que les instances du Parti social-démocrate acceptent les compromis. Et ça, c'est 600 délégués. Et la base du parti n'est pas du tout gagnée encore.
Les jeunes en particulier, hein, si je comprends bien.
Exactement. Donc, si tout se passe bien, il y aura un nouveau gouvernement majoritaire de Mme Merkel à la fin mars... Mais il y a une possibilité que les instances du Parti social-démocrate disent non. Et ça, on va le savoir dans une semaine.
Et à ce moment-là, je ne vois pas, moi, d'autres scénarios que de nouvelles élections, là.
elle pourrait être majoritaire, elle pourrait aussi essayer de gouverner comme gouvernement minoritaire plutôt, et évidemment se faire battre éventuellement sur une question de budget ou une question importante, et à ce moment-là, on ira en élection. Il se pourrait peut-être que les sociodémocrates l'appuient pour un premier budget, tu sais, quelque chose du genre.
Bon, parlons rapidement de la Tunisie, parce que c'est quand même un pays fascinant, la Tunisie.
Oui.
Avec le printemps arabe, ça a été le premier. C'est peut-être le pays qui où le printemps a réussi à perdurer là, dans plusieurs pays.
Oui, c'est un printemps fragile, mais c'est un printemps quand même. Il y a eu de belles avancées, des avancées démocratiques en Tunisie. Et je pense que à cet égard, les Tunisiens doivent avoir toute notre sympathie. Malheureusement, ça va pas très bien en ce moment en Tunisie. D'abord parce qu'il y a une inflation qui est très forte et qu'il y a beaucoup de chômage, en particulier chez les jeunes. Et donc, depuis lundi dernier, il y a de grandes manifestations en Tunisie. Ça s'est un peu calmé, semble-t-il, hier soir, mais tout de même. Des grandes manifestations qui dégénèrent en confrontation entre la police, l'armée et des jeunes. Il y a des pillages, il y a des émeutes autour des banques. On a attaqué un train, un poste de police. Il y a eu 600 arrestations jusqu'à maintenant. Et comme le pays est toujours sous la coupe de la loi des mesures d'urgence, tu sais, à cause des attaques djihadistes il y a 2 ans, eh bien, la réponse des autorités est évidemment une réponse extrêmement, je te dirais, dure, bien entendu. Donc, le fond du problème est qu'il y a une hausse des prix, qu'il y a une hausse du chômage, les gens sont mécontents, mais cette hausse des prix provient entre autres, tiens donc, d'un programme d'austérité imposé par le FMI, parce que le pays avait besoin d'un prêt de 2,4 milliards d'euros sur 4 ans. Ça a été négocié en 2016, mais c'est le budget de 2018 qui va surtout mettre en œuvre ces mesures d'austérité. Donc, c'est là qu'on en est. Et évidemment, le 14 janvier 2011, il y a eu le début de la révolution tunisienne. Donc, en prévision de ce 14 janvier, il y a toutes ces manifestations dans les rues qu'on voit maintenant en Tunisie.
Bon. Et en terminant, on va souhaiter à nos amis tunisiens de passer au travers, parce que c'est vraiment, c'est une lueur d'espoir, la Tunisie, malgré tout, quand on regarde le monde arabo-musulman. En terminant, parle-nous rapidement de General Motors qui va produire beaucoup, beaucoup de voitures autonomes, là, hein?
Ah oui, des autos en masse, là, en production de masse. C'est plus des petits modèles, c'est la Cruise, c'est le nom du véhicule. GM va produire massivement donc des Cruise d'ici 2019, ou plutôt en 2019, c'est là qu'ils vont commencer. Et ça, ce sont des autos qui se conduisent toutes seules. J'ai vu des photos, c'est étonnant. Il n'y a pas de volant, pas de pédale. Tu t'assois là, tu dis où tu veux aller et l'auto t'y emmène. Alors, il y a des petits problèmes encore. Bon, évidemment, tu me diras, je suis pas sûr que je vais être le premier à essayer ce genre de voiture.
Je vais te dire ça, effectivement.
C'est déstabilisant pour un certain nombre d'entre nous. Bon, d'accord. Mais il y a d'autres problèmes, si tu veux, c'est qu'il y a juste 7 États aux États-Unis qui vont autoriser d'ici 2019 que ces autos roulent sur leur territoire. Il faut aussi que le gouvernement fédéral américain l'autorise. Mais je te signale qu'il y a un marché gigantesque pour ça. Pense simplement aux personnes âgées qui perdent leur permis de conduire et qui vont vouloir ce genre d'auto. Puis pense aussi aux gens qui font de très très longs trajets. Imagine que ce soit vraiment sécuritaire et toi qui fais souvent Montréal-Québec, tu pourrais embarquer dans ton auto comme ça, t'aurais pas besoin de conduire, tu pourrais faire autre chose, t'arriverais frais et dispo à ta destination. C'est quand même un bel avantage. On peut raisonner.
C'est sûr, c'est sûr. Je dis pas non, puis je sais très bien que c'est ça l'avenir, mais moi j'ai hâte qu'on ait chacun un petit drone, puis qu'on puisse non pas rouler, mais voler. Ça là, j'espère qu'on va... On pourrait se croiser le long de l'autoroute à se faire des babayes en drone, là.
Oui, ça va peut-être être un peu plus long et je me méfie beaucoup du bruit que feraient les drones. Je suis pas sûr que j'aimerais avoir une autoroute de drone à côté de chez moi.
Alec, qu'est-ce que je dis? Loïc Tassé, politologue, spécialiste de la Chine et de l'Asie.
J'ai entendu rire de l'autre côté de la rivière. Oui.
C'est le drone. C'est le bruit du drone qui m'a distrait. À lundi, mon gars.
Salut.
Et dans un instant, on va parler à une jeune femme qui a subi une quadruple amputation il y a 6 ans. Elle va nous dire comment elle a appris à vivre avec ça.